Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Une actualité musicale qui tourne un peu au ralenti en cette seconde semaine des vacances de la Toussaint, au point que nous n'allons pas pouvoir proposer de rubrique retour arrière lors de cette émission. C'est rare, mais ça arrive une ou deux fois dans l'année. En revanche, l'agenda de la semaine prochaine est bien rempli et nous allons avoir un certain nombre d'événements à vous annoncer et vous présenter avec mes deux invités du jour. Tout d'abord, l'inamovible, l'inoxydable Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, avec qui j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Jacques Cuben, directeur artistique du festival Déodat Sévrac, une manifestation dont la partie automnale a lieu cette année du 8 au 21 novembre, où elle propose trois concerts à Toulouse. On va en parler tout à l'heure avec Jean-Jacques Cuben. Pas de retour arrière donc, nous attaquons tout de suite la longue partie agenda de cette émission.
Mélomanie, l'agenda.
Et cette rubrique agenda nous amène d'emblée en début de semaine prochaine pour les concerts que donne l'Orchestre de Chambre de Toulouse les lundis 4 et mardi 5 novembre à l'Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines. En fait, Serge, que ce soit le lundi ou le mardi, il y a deux temps différents au cours de la journée, puisqu'il y a d'abord un concert pédagogique en début d'après-midi à 14h30 sur la thématique « Une brève histoire de la musique ». Elle s'adresse autant aux adultes qu'aux plus jeunes. C'est gratuit, sur réservation tout de même, dans la limite des places disponibles. Quelles œuvres va-t-on y entendre ?
Eh bien, des œuvres qui font partie de l'héritage de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, hein, des œuvres qui leur sont très familières, hein, avec tout d'abord un concerto grosso, le concerto en ré mineur de Vivaldi. Évidemment, Vivaldi est l'un des...
Un des très nombreux concertos composés par Antonio Vivaldi.
Voilà, oui, oui, les fameux concertos dont Stravinsky disait qu'il n'en avait pas composé 200, mais
200
fois le même. Donc, c'était pas très gentil, hein, évidemment. D'autant plus que c'est faux, ils sont très variés, très beaux, ces concertos. Donc, d'abord, le concerto grosso en ré mineur, RV 127, de Vivaldi, et puis du Lully, avec la marche pour la cérémonie des Turcs. Alors ça, c'est aussi une pièce tout à fait amusante, qui se prend au sérieux. Enfin, c'est vraiment...
C'est très solennel.
Bon, hein. C'est très solennel, oui, oui. Et puis du Mozart, avec des extraits donc du Divertimento Köchel 138, un grand classique là aussi, hein, qui cadre très bien avec ce thème d'histoire de la musique. Et puis, on passe à Félix Mendelssohn, avec des extraits là aussi de son quatuor à cordes en mi bémol. Alors Félix Mendelssohn, c'est vraiment un très grand compositeur qu'on a un peu négligé à une certaine époque, mais qui revient en force là actuellement et c'est vraiment très mérité. Et puis pour terminer, la Simple Symphony de Benjamin Britten. Alors cette Simple Symphony, elle est écrite spécialement pour orchestre à cordes, hein, pour ce type d'orchestre de chambre. Je voudrais rappeler une chose, un souvenir très ancien pour le vieux mélomane que je suis, du temps de Louis Oriacombe. Vous voyez, ça remonte à très
le
loin.
Le fondateur de l'orchestre.
Le fondateur, dans les années 50, à l'époque, il avait fondé l'orchestre. Et encore un peu plus tard, il continuait à donner comme bis favori le pizzicato de la Simple Symphony. C'était vraiment un bis qu'il aimait donner et qui vraiment mettait en valeur
les cordes,
les cordes, les pizzicati de cordes, la précision, la beauté. Donc c'est vraiment un élément important, je trouve, de ce programme.
Donc, pour cette brève histoire de la musique, ils partent du baroque italien et français. Bon, je mets Lully dans les français. Peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais il a fait sa carrière en France, tout même, même s'il était d'origine italienne. On passe par le classicisme viennois, on passe par le romantisme avec Mendelssohn, et puis on arrive au XXe siècle, donc avec Benjamin Britten. Mmh. Eh bien oui, effectivement, ça fait trois siècles.
Hein. Ah oui, c'est pas mal.
Trois siècles. Ouais. Bon, non, pas tout à fait d'ailleurs, j'ai des bêtises. Plutôt deux siècles et demi de musique dite classique, même si on passe par toutes les périodes. C'est une bonne manière, je trouve, de découvrir les nuances et les spécificités des quatre périodes. Et puis comment on passe de l'une à l'autre, comment ça s'enchaîne, tout ça. Donc c'est un regard, je pense, qui devrait intéresser, comme je l'ai dit, autant les petits que les grands.
Oui. Oui.
Et c'est pédagogique, même si la pédagogie, comme le préfixe l'indique, c'est pour les enfants, la pédagogie, normalement. Oui, et parfois, il faut faire de la pédagogie aussi pour les adultes.
Non, mais c'est vrai, on apprend à tout âge, hein, donc ça va très bien.
Donc, ce sera à 14h30, et je le répète, hein, c'est gratuit. Voici un extrait du programme de ce concert pédagogique que propose l'Orchestre de Chambre de Toulouse à Saint-Pierre-des-Cuisines les 4 et 5 novembre à 14h30. Et bien, c'est justement la Simple Symphony de Benjamin Britten. La Simple Symphony de Benjamin Britten, interprétée par l'Orchestre de Chambre de Toulouse, un extrait du programme du concert pédagogique qu'il donne à Saint-Pierre-des-Cuisines les 4 et 5 novembre à 14h30. Et puis donc, les mêmes jours, les musiciens de l'Orchestre de Chambre sont encore en concert le soir à 20h30 au même endroit, mais avec un autre programme, un programme qui n'a vraiment, mais alors vraiment rien à voir avec celui de l'après-midi, Serge.
Ah, complètement, c'est même surprenant. Hein. Bon, c'est réjouissant en quelque sorte, hein, puisque c'est un programme uniquement avec des adaptations pour l'orchestre de pièces signées ABBA et Queen.
Donc, des groupes de pop-rock.
Voilà, pourquoi pas. Hein. Là, c'est vraiment une idée un peu révolutionnaire hein, que de donner ces transcriptions donc, de pièces célèbres de ces deux groupes en question.
Oui, alors Serge, je me demandais ce que vous pensiez de ce qu'on peut appeler un certain mélange des genres tout de même, consistant non pas à mélanger du classique et de la pop dans un même concert, mais là à adapter de la pop pour un orchestre à cordes.
Non, mais pourquoi pas, hein, c'est une bonne idée, hein, et ça va attirer un autre public.
Ben, le but, c'est ça, on sait tous qu'il n'y en a pas d'autre. Hein. Le but, c'est d'amener un autre public à la musique classique par le biais d'adaptations en orchestre, parfois symphonique, hein, de grands tubes de la musique pop, en espérant que les jeunes qui viendront, ou le public différent qui viendra assister à ces concerts, reviendra pour écouter de la musique purement classique la fois suivante.
Oui, exactement, c'est une bonne idée. Et puis, bon, il y a des titres que l'on connaît un peu. Hein.
C'est les grands titres concernant ABBA, en tout cas. Oui. L'essentiel de la carrière de ce groupe, c'est les années 70. Il a été fondé en 71.
Oui.
Et je crois qu'ils se sont séparés en 82, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, l'essentiel, alors vous pouvez donner effectivement les titres de cette première partie de concert.
Gimme, 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 qui date de 79. Et puis il y a Angel Eyes,
la même année.
Les yeux de l'ange, la même année. Waterloo.
Donc. Ah ben ça, c'est le tube avec lequel ils avaient gagné l'Eurovision en 74, un peu à la surprise générale.
Ah d'accord.
À l'époque.
Ah, bravo. Puis Dancing Queen. de 76, Fernando, également de 76, et Mamma Mia, c'est l'année avant,
en 75. Voilà, ben, voilà, tous ces morceaux sont compris entre les années 74 et 79, c'est sur 5 ans. Alors, je ne sais pas qui a fait les arrangements, je ne sais pas si ce sont des arrangements made in Orchestre de Chambre de Toulouse, ou ils sont allés chercher d'autres préexistants, oui, parce que ça a déjà été fait, hein. C'est oui, pas quelque chose de complètement nouveau, ça a été fait beaucoup dans les pays, plutôt dans les pays anglo-saxons, et notamment en Angleterre, qui est le pays de la pop, un des grands groupes de musique pop. On va avoir tout de suite une petite idée de ce que peut donner un tube du groupe ABBA en version pour cordes. Je vous propose d'écouter leur fameux titre Dancing Queen, une version pour quatuor à cordes que j'ai trouvée en fouillant sur Internet. Dancing Queen en version pour quatuor à cordes, je veux dire que je trouve ça moyennement convaincant pour ma part, en tout cas pour ce titre. Jean-Jacques Cuben, je vous voyais sourire. Comment vous trouvez ça? Alors, vous me disiez,
voilà, c'est une chanson. Et à bas, c'est quand même un groupe vocal, hein, même si dessous, bon, il y a de la musique, bien évidemment. Mais enfin, c'est bon, que la musique, ça fait un peu. Elle est un peu soap, comme on dit.
Ouais. Je trouve que ça fait un peu guimauve, quoi. Manque de consistance. Bon. Oui. Alors donc, seconde partie du concert, elle est dédiée au groupe Queen, de Feu, Freddie et Mercury. Oui, oui. Quels titres ont été retenus, Serge?
Alors là, c'est différent. Alors là aussi, la voix est tellement sous-jacente dans les pièces qui sont proposées que j'imagine que dans le public, il y en aura qui vont fredonner.
Mais d'ailleurs, ils vont peut-être permettre à ceux qui veulent de fredonner pendant qu'ils jouent.
Ça commence par « We will rock you ». Et puis ça finit par « We are the champions ».
Deux titres de la même année d'ailleurs, c'est 77 les deux.
Et oui. Et entre les deux, il y a « Who wants to live forever ».
Ça, c'est les années 80. Ça.
Oui, donc il veut vivre éternellement. Bohemian Rhapsody, donc, ça, la Rhapsody bohémienne.
Immense tube à l'époque.
Voilà, un grand tube. Love of my life, donc l'amour de ma vie. Don't stop me now. Et I want to break free.
Ça, c'est années 80 aussi. Ça.
Oui, voilà. Vraiment, c'est un large panorama des grands succès de Queen. Hein. Vraiment, là, je crois qu'il y a de la matière à faire réagir un public.
Ah oui, alors les deux groupes ont été fondés à peu près la même année. C'est ça qui est marrant. C'est 70 pour Queen et donc 71 pour le groupe ABBA. Oui. Mais la carrière de Queen, quand même, s'est prolongée au-delà des années 70, ce qui n'a pas vraiment été le cas du groupe ABBA. Hein.
Oui, c'est ça, oui.
Et je pense beaucoup aussi, grâce non seulement à la voix magnifique, mais aussi à la personnalité de Freddie Mercury, qui a été pour beaucoup, je pense, dans le succès et la longévité de ce groupe. Alors, nous allons là aussi avoir un aperçu de ce que donne un tube de Queen en version pour cordes, avec ce qui fut l'un des grands succès du groupe, Bohemian Rhapsody, encore une fois en version pour quatuor à cordes, une version qui a été enregistrée par le Royal Academy of Music Quartet. Bohemian Rhapsody dans la version du Royal Academy of Music Quartet. Alors je trouve que ça passe beaucoup mieux le cap entre la pop et le classique que ce que nous avons entendu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ?
Oui, je trouve aussi, oui.
Oui, c'est beaucoup plus... Disons, l'autre arrangement était très corde, mais trop un peu corde, legato, enfin, etc. Ça faisait un peu sirop. Oui. Alors que là, bon, il y a du rythme, il y a des choses plus intéressantes, disons.
Voilà. Alors, j'ai eu la réponse concernant les arrangements pour les concerts de l'orchestre de chambre de Toulouse. Ça m'a été confirmé par Carlos Vizcaino. C'est bien du fait maison, si je puis dire, puisqu'ils ont été réalisés par Vincent Gervais, qui est altiste à l'orchestre de chambre, et Nabi Cabestany, qui est violoncelliste de l'ensemble. Voilà, donc ça sera quelque chose à découvrir, sachant qu'il y aura aussi sur scène Johan Enkin du groupe Cats and Trees, ce duo toulousain de pop aussi. Alors je crois qu'il est batteur, alors il va peut-être intervenir aux percussions. Tout ça, ça sera à découvrir. Donc les 4 et 5 novembre pour les concerts de l'orchestre de chambre à 20h30 à Saint-Pierre-des-Cuisines, concert avec au programme les tubes des groupes ABBA et Queen. Nous revenons maintenant à quelque chose de plus conforme, si je puis dire, plus conforme au standard classique en tout cas, avec le concert de l'ensemble vocal Nota Bene que va diriger Delphine Armand le mercredi 6 novembre à 21h. Et c'est également à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il y a une très grosse œuvre au programme, Serge, très belle, grande œuvre, La Messa di Gloria de Puccini.
Oui, oui, une œuvre de jeunesse de Puccini. Une très belle œuvre, hein, vraiment, qu'il a révélée en musique sacrée. Nous entendrons donc cette messe de gloire, et en même temps avec un récital d'un jeune talent qui est le ténor Gabriel Rixt, donc nous découvrirons pour la plupart.
Alors je crois qu'il fait partie du chœur de l'Opéra de Marseille, qu'il est même soliste, hein, le ténor soliste de ce chœur, très jeune chanteur, effectivement à découvrir. Il y a un baryton aussi. Hein.
Il y a un baryton qui s'appelle Nicolas Abella, et le tout sera accompagné au piano et pas à l'orchestre par Christophe Larieux, que l'on connaît bien. Et donc avec l'ensemble vocal Nota Bene, Delphine Armand, qui est vraiment une personnalité importante à Toulouse.
Hein, oui, qui enseigne,
qui enseigne au conservatoire.
Le chant choral au conservatoire, elle s'occupe notamment des classes horaires aménagées. C'est grâce à des enseignants comme elle qu'on a des jeunes pousses qui arrivent, qui rentrent après à la maîtrise de Toulouse et qui, pour certains, vont faire des carrières comme Juliette May.
Juliette May, ils ont accompagné Juliette May dans un concert mémorable au Temple du Salin, d'ailleurs, dont j'ai le souvenir, une très belle voix que celle de Juliette. Donc, très bien. J'espère qu'on la reverra d'ailleurs avec le chœur Nota Bene à Toulouse.
Alors, cette messe, Messa di Gloria, messe de gloire de Giacomo Puccini, j'ai pas l'impression que ce soit une œuvre qu'on entende très souvent, en tout cas pas à Toulouse.
Ben non.
Moi, j'en ai pas le souvenir de l'avoir entendu. Je sais pas si vous l'avez pas entendu non plus. Vous, Jean-Jacques Cubel, ça vous dit quelque chose?
Alors, moi, je me souviens aussi d'un concert, mais c'était avec Louis Massot. Il y avait l'ensemble, il y a longtemps de ça maintenant. Je chantais même la partie de basse, qui est très belle, il y a un très bel air dedans. Et le ténor a un très bel air aussi. Tous les morceaux sont très, très lyriques, en fait, c'est presque la musique d'opéra.
Oui, c'est opératique. Oui,
d'ailleurs, il y en a un qui a été repris dans une œuvre, je ne sais plus lequel maintenant. Et ça, c'est assez ancien, c'est même très ancien. Même.
Alors, il existe de nombreux enregistrements de cette messe de gloire. Oui. Je crois qu'il y en a même un dirigé par Karajan. C'est pour dire quand même que c'est une œuvre qui reste tout de même les grands chefs. On n'a pas d'informations sur le récital que va donner Gabriel, on ne sait pas.
Non, mais c'est indiqué qu'il proposera à la suite de la Messa di Gloria un récital pendant lequel il sera accompagné évidemment par Christophe Larieux.
Eh bien, ça sera une curiosité de plus pour ce concert. On va écouter le début du Gloria, de la Messe de Gloire de Puccini. C'est un magnifique morceau de bravoure chorale. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Oh,
le début du Gloria, de la Messa di Gloria de Giacomo Puccini, la grande œuvre au programme du concert que donne l'ensemble vocal Nota Bene sous la direction de Delphine Armand, mercredi 6 novembre à 21h à Saint-Pierre-des-Cuisines, avec le ténor Gabriel Rixt et le baryton Nicolas Abella. Tous sont accompagnés au piano par Christophe Larieux, et donc Gabriel Rixt va donner un petit récital, accompagné par Christophe Larieux lui aussi, après l'exécution de la Messa di Gloria de Puccini. C'est le moment de retrouver Jean-Jacques Cuben, le directeur artistique du festival Déodat Sévrac, dont nous allons évoquer la seconde partie de l'édition 2024. Vous étiez venu en juin dernier nous présenter la partie estivale, parce que c'est une manifestation qui se déroule en deux temps distincts. Le premier, l'été, dans divers lieux du Lauragais, plutôt en plein air, et le second, l'automne, à Toulouse. Est-ce que ce choix de séparer les deux parties du festival entre territoire rural et ville de Toulouse implique aussi des thématiques différentes pour chacune d'entre elles ?
Oui, l'été, disons, nous avons une thématique un peu plus générale. Enfin, bon, c'est toujours à partir de, évidemment, de musique classique, mais aussi de croisement entre musique, musique traditionnelle et musique classique. On a fait pas mal de choses dans ces domaines. Toulouse, c'est plutôt thématique occitane, on va dire. L'idée, c'est parti de là. Hein. Lorsqu'on nous a demandé, dès le début d'ailleurs, hein, dès que j'ai pris le festival en 1995, tout de suite, Toulouse a souhaité que des choses se fassent à Toulouse. C'était autour, notamment, à l'époque, de l'amitié occitano-catalane. Il y avait donc de grandes manifestations catalanes qui se faisaient ici. C'était Joan Claret qui était président du Casal à l'époque, et donc qui était très dynamique et qui avait fait pas mal de choses pour permettre ces manifestations. Et donc après, on a continué à faire des choses sur Toulouse, mais il nous a semblé qu'il était plus simple de faire deux choses distinctes dans la mesure où c'est un peu compliqué l'été d'être à la fois à Toulouse, à la campagne, entre guillemets, et, etc. Donc c'était mieux d'avoir une spécificité toulousaine et de trouver un thème pour cette spécificité. Et c'était donc la culture occitane, mais dans le sens de culture d'aujourd'hui, donc souvent avec des créations, avec une création dans les trois ou quatre concerts que l'on donnait.
Puis alors, il y a aussi un aspect, je pense, par rapport à vos partenaires, tout simplement, ceux qui vous subventionnent, puisque vous avez le conseil départemental,
et la ville de Toulouse,
irriguer les territoires ruraux,
bien entendu.
Et puis la mairie de Toulouse,
oui,
donc c'est pour ça qu'il y a une partie.
Oui, qui est un soutien fidèle, qui en fait ne fait pas la différence, hein. Je veux dire, il ne donne pas spécialement pour Toulouse ou uniquement pour Toulouse, il donne pour l'ensemble des festivals.
Oui, oui. Et donc à Toulouse, c'est à Saint-Pierre-des-Cuisines et à l'hôtel d'Assesa qui est votre autre un peu repère, si je puis dire.
Oui, parce que finalement, c'est une salle qui est relativement intime. Bon, il doit y avoir, je ne sais pas, 150 places.
Ouais, la salle Clément Cizor.
Salle Clément Cizor, mais qui est dans un lieu, par contre, extraordinaire.
Bon,
c'est certainement le plus bel hôtel de Toulouse. Hein. Et donc, il y a cette dimension, et puis une dimension qui est liée à la culture occitane, avec l'Académie des Jeux Floraux, qui à l'origine était une... C'était le consistorio d'Alguersuabe, et puis ensuite c'est devenu l'académie, disons, je crois que c'est au XVIe ou XVIIe siècle, parce qu'à ce moment-là, la langue française a pris le dessus sur la langue occitane, et donc on est parti dans un système académique, on a reproduit un peu ce qu'était l'académie française finalement.
Alors vous parlez de la culture occitane, donc la partie toulousaine de l'automne est plutôt à dominante culture occitane. Est-ce que ça ne renvoie pas à cette image qu'on donne à Sévrac à tort ou à raison de compositeur un peu régionaliste ?
Non, je ne pense pas, parce que, oui, il est régionaliste dans la mesure où il affirme qu'au fond, on peut être musicien ailleurs qu'à Paris.
Oui,
et que surtout on
est
nourri.
Il a fait un choix fort en ce sens.
Ah oui, tout à fait. Et qu'on est nourri, au fond, par ce que l'on a connu jeune, on va dire, hein, c'est-à-dire toute cette identité, pour employer le mot quand même, qui est juste une identité qui est forcément différente ici de celle qu'on peut avoir, je ne sais pas, dans le Nord, ou, etc. Chaque région de la France a son identité. Donc il tient beaucoup à ça, mais il n'est pas régionaliste dans le sens où ce n'est pas un folkloriste. C'est quelqu'un qui, par contre, a une écriture musicale très savante, mais qui n'hésite pas, quelque part, à affirmer qu'il fait partie d'un monde, qui est le monde méditerranéen, qu'il est un musicien paysan, mais ça c'est un peu pour, comme ça, une sorte de petite plaisanterie, on va dire.
Oui, parce que ça reste un aristocrate quand même.
Voilà, tout à fait. Coquetterie, je cherchais le mot.
Oui, ça lui va bien.
C'est une coquetterie.
Et
surtout, bon, enfin, il a souhaité que cette langue occitane soit présente dans ses œuvres savantes, puisqu'il a fait des mélodies en langue occitane à l'origine. Il y a tout un petit cycle de trois mélodies qui s'appelle Flus d'Occitanie, donc Fleur d'Occitanie, avec la chanson du Petit Cheval, l'Aubade, et puis le Chant pour Noël, avec des poètes, notamment Goudouli, pour le Chant pour Noël, et Prosper Estieux, qui était un des rénovateurs de la culture occitane à la fin du 19e siècle, avec Antonin Perbosque. Il a vraiment affirmé la chose, parce qu'il y a peu de compositeurs classiques qui ont pris, il y a Canteloube, hein, qui a bien sûr à utiliser, mais c'est un peu la suite de Sévrac d'ailleurs, hein, parce qu'il se considère comme un élève de Sévrac. Même s'il n'est pas directement un élève, Sévrac ne donnait pas de leçons.
Mais enfin, il y a une filiation.
Voilà, il y a une filiation. Et également par rapport à la musique catalane, puisqu'après il est allé vivre à Céré, donc en Roussillon, et il a intégré des instruments traditionnels catalans, les instruments de la coble, il les a intégrés à son orchestre symphonique. notamment pour cette grande œuvre qui s'appelle Elio Gabal. Voilà, donc c'est un militant quelque part, hein, Sévrac.
Oui.
Donc il ose des choses parce qu'il dit, ben, moi je le pense, donc je le fais.
Alors tout de même, aspect régional un peu revendiqué pour le festival, cette fois-ci, c'est que vous soutenez les jeunes talents et les formations, les ensembles régionaux.
Alors ça, je pense que c'est important parce que d'abord, on a des talents, hein, donc je ne vois pas pourquoi,
on ne
les soutiendrait pas. Qu'il y a également la volonté quelque part dans le festival, au fond, de... modestement, hein, comprenons-nous, de faire ce qu'on ne fait pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on fait des spectacles spécifiques qu'on ne retrouvera pas ailleurs parce que tout simplement, ce n'est pas un spectacle qui tourne, c'est un spectacle que l'on fait spécialement pour le festival. Et donc, à partir de là, bah, y a des, en effet des artistes régionaux qui sont invités par le festival, que ce soit dans un domaine de musique du monde, entre guillemets. Bon, Pradal, par exemple, Vicente Pradal, qui vient souvent au festival, Nadine Rossello, tout ça, ce sont des gens qui vivent en région et qui sont... de grands artistes dans leur domaine. Donc quelque part, je trouve que c'est important de les... et puis de les associer aussi, ce qu'ils ne font pas la plupart du temps. Ils sont chacun un peu dans leur coin. Et là, c'est bien de les réunir. Et on fait des spectacles qui, finalement, eh ben, les gens sortent et disent « Tiens, ah ben, c'était intéressant. » Voilà, c'est ça l'idée, hein, quand même.
Eh bien, en parlant d'associations et de talents qui sont nés, qui ont été formés dans notre région, et même à Toulouse, pour les deux dont on va parler, là, le premier concert, vendredi 8 novembre, à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, nous propose un récital de musique française donné par deux enfants du pays, deux grands.
Tout à fait. Alors, la soprane Anaïs Constant. Je pense que Toulouse, les spectateurs du Capitole la connaissent maintenant parce qu'elle a chanté beaucoup de très belles choses. Mimi, Blanche de la Force dans le dialogue des Carmélites, enfin, bon, j'en passe. La...
Michaela.
Michaela, bien sûr. Voilà, et donc c'est quelqu'un qui maintenant a une carrière internationale finalement, qui a eu, tout de même été une des rares lauréates françaises de beaucoup de grands concours internationaux. On l'oublie souvent ça, ça serait une, je sais pas, une russe ou un machin, on en parlerait.
Oui.
Française, on n'en parle pas trop, ce qui est un peu dommage. Et c'est quelqu'un en plus de qualité, de talent, qui est également resté très, très modeste dans le sens de la prétention. Et ensuite, bon, le partenaire, finalement, qu'on associe pour la première fois, hein, parce que c'est la première fois qu'ils sont...
Ils ont à peu près le même âge, ils ont dû être au conservatoire en même temps,
peut-être,
je pense, à peu près les mêmes années.
Un peu plus jeune légèrement, mais enfin. Et Nathanaël Gouin, vu très récemment
Piano Jacobin. Ouais.
Voilà, donc ce sont des gens qui maintenant font une grande carrière. Alors cette association, elle est due à la fois au Festival des Odettes Sévrac, mais aussi à une autre association dont je m'occupe également, c'est Toulouse Mélodie Française, qui est dirigée par, le président, c'est l'ancien directeur du conservatoire, Gérard Durand. Donc la chose est à la fois par rapport à la Mélodie Française et aussi par l'idée qu'en effet, il est important de présenter des talents. Et là, ce sont de grands talents. Je pense que ça sera d'ailleurs un très beau concert.
Ah oui, j'en suis certain.
Avec beaucoup de belles œuvres.
Alors il va y avoir à peu près tous les grands compositeurs de Mélodie Française et de pièces pour piano aussi. De la deuxième moitié du 19e, début du 20e siècle, je vais les citer tous, hein. Il y a Gabriel Fauré évidemment, on commémore les 100 ans de sa mort cette année, Henri Duparc, Reynaldo Hahn, Déodat Sévrac, qui a donc Camille Saint-Saëns, la grande Nadia Boulanger, Henri Dutilleux, alors là on avance un peu dans le 20e siècle, vous voyez, et puis il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va y avoir deux créations, alors ça aussi c'est une vocation de votre festival, faire des créations, et là ça va être les créations d'une... toute jeune, hein, compositrice, qui s'appelle Anne Castex.
Anne Castex. Anne Castex, je pense qu'elle a, je crois, elle a fait ses études, je pense, à Toulouse.
Ah oui, je vous le confirme.
Voilà, et donc, notamment, elle fait de la musique électroacoustique.
Électroacoustique,
donc, avec Bertrand Dubedoux, notamment.
Je crois qu'elle a été l'élève de Bertrand Dubedoux au conservatoire.
Tout à fait. L'idée, là, c'est Gérard Durand qui tient beaucoup à ça, dans le cadre de la Mélodie Française, de Toulouse Mélodie Française, c'est justement de chaque fois que l'on peut, déjà par rapport au concours, hein, on le fait aussi, de créer des œuvres que l'on fait chanter soit par les candidats dans le cadre d'un concours, soit, ce sont des commandes en fait, soit après des œuvres que l'on joue dans le cadre d'un concert. Et donc, moi je me suis évidemment associé à ça, parce que ça a tout à fait dans le sens de cette idée de création, notamment à Toulouse, d'œuvres nouvelles, donc dans le cadre des automnales du festival.
Donc il y aura deux pièces.
Hein. Deux pièces, oui.
Anne Castex, en plus, c'est une compositrice.
Oui.
Mais oui,
jeune compositrice, elle est née en 93.
Je crois de grande qualité.
Hein, oui, elle est née en 93, donc elle a 31 ans. Elle a suivi des études de piano d'abord, puis après elle a obtenu un master en musicologie à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Voilà. Et donc, elle est à la fois compositrice de musique instrumentale, électroacoustique et puis de mixte entre les deux. Moi, j'ai écouté un peu, par curiosité, sur Internet. C'est assez décoiffant, ce qu'elle fait. Donc, moi, je suis très curieux de voir. Parce que là, c'est de la mélodie. En plus, c'est pas d'instrumental.
Je suis tout autant curieux que vous.
J'imagine bien. Bon, elle a la chance que ses œuvres soient créées tout de même par Anaïs Constant, chant, et puis accompagnée par Nathanaël Gouin. C'est quand même une chance, il me semble. Voilà. Alors, moi, j'ai pas de mélodie chantée par Anaïs Constant à vous faire écouter, mais bon, là, si jolie voix, on ne va pas se priver de l'écouter dans cette émission. On va l'écouter chanter une des mélodies persanes de Camille Saint-Saëns, la pièce intitulée « Au cimetière » et elle est accompagnée par l'Orchestre national du Capitole. au cimetière, une des mélodies persanes de Camille Saint-Saëns, chantée par Anaïs Constant, accompagnée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Léo Hussein. C'est un extrait d'un CD enregistré il y a quelques années et produit par le Palazzetto Bruzzane. Deuxième concert de la partie automnale du festival Deodat Sévrac, jeudi 14 novembre à 20h à l'hôtel d'Assesa, à la salle Clément César dont nous parlions tout à l'heure. Là, il s'agit entièrement d'une création, Jean-Jacques Cubaine, oui, qui va être donnée par l'ensemble Ut Musica Poesis.
Oui, c'est une création, c'est toujours autour du thème des troubadours. Hein. On parle de ce thème-là. L'année dernière, nous avons fait donc une grande création là, en novembre. Hein. Et donc, c'est autour du thème des troubadours, mais d'une manière alors très, très, très contemporaine. Et là, on revient un peu aux sources, c'est-à-dire que l'ensemble a travaillé, disons, les rares partitions qui restent des troubadours, et a fait au fond cette idée-là de mettre en miroir, puisque le thème, bon, c'est autour de l'amour, hein, l'amour courtois, etc., pour les troubadours, hein, et donc de mettre en miroir avec le XVIIe siècle.
Les madrigaux.
Et les madrigaux de Monteverdi qui sont sur ces mêmes thèmes. Hein, donc c'est
madrigaux d'amour.
C'est un, voilà, c'est madrigaux d'amour. Et donc... c'est l'ensemble qui a eu cette idée-là. C'est un nouvel ensemble. Il y a une personne très importante dedans qui est la basse, qui s'appelle Frédéric Albou, qui est un bon chanteur et également quelqu'un qui s'est beaucoup...
Un chercheur, etc.
Et qui a fait beaucoup de travail sur toute cette période-là et sur des choses aussi, notamment sur l'orphisme, bon, mais qui est un autre domaine. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a cette volonté d'aller, de sortir des sentiers battus déjà et d'essayer de trouver des choses qui sont... de redonner au fond un fond également, un fond culturel à ces choses-là. Hein. Peut-être aussi une autre interprétation que celles qui sont habituelles. Hein. Voilà.
Je crois que c'est un helléniste aussi.
Voilà, c'est quelqu'un de très brillant, très, en plus charmant garçon. Et donc après l'ensemble, ben, c'est un peu une émanation de l'ensemble Tarentule, voilà, qui maintenant, bon, Xavier de Lignerolles ne dirige plus Tarentule. Et donc ils ont formé un nouvel ensemble à 3 ou à 4, enfin ça dépend
des configurations.
Mais avec l'idée quand même de faire à la fois de la musique polyphonique, ou disons vocale, mais en petit ensemble, mais aussi des choses seules. Donc dans le concert, il y a certains airs de troubadour qui sont à voce sola, pareil pour Monteverdi, où il y a des extraits de certaines lettera amorosa, enfin, voilà.
Voilà, cet ensemble Ut Musica Poesis est formé par Marie Cubaine, mezzo-soprano, Xavier de Lignerolles, ténor, Frédéric Albou, basse, et donc il y aura Florent Marie pour l'accompagner, voilà, qui joue du luth et du théorbe.
Voilà, qui permet d'avoir ce soutien, disons, notamment pour Monteverdi.
Et puis là, bon, on est en plein dans cette vocation du festival que j'évoquais tout à l'heure, donc soutenir la création contemporaine.
Contemporaine avec la langue occitane, puisque bon, le troubadour...
Et on peut faire du neuf avec de l'ancien, comme on dit.
Exactement. De toute façon, ces troubadours, ils ont toujours beaucoup inspiré, hein, même si on est resté, d'ailleurs, le concert suivant, vous verrez, c'est ça l'idée. C'est le summum ou le sommet de la culture occitane. Hein. Bon, à l'époque des troubadours, au XIIe, XIIIe siècle, c'était une des grandes cultures de l'Occident. Et donc, c'est resté quand même dans la mémoire, petit à petit, des gens et des générations qui ont suivi, des siècles qui ont suivi. On a gardé cette idée, on a pensé aux troubadours. Alors, plus ou moins juste, parce qu'évidemment, après, la culture française est arrivée, et on a parlé des trouvères à ce moment-là. Mais en fait, c'est un peu la même chose, simplement, ils sont dans une autre langue. Et donc, on est resté un peu plus, on a beaucoup plus parlé des trouvères que des troubadours. Mais ici, évidemment, c'est resté à partir de tout le XVIe siècle, XVIIe siècle, avec Goudouli, enfin, etc. Bien sûr, ce n'était pas la même chose, mais on pensait troubadours, etc. Et le XIXe siècle, la fin du 19e, alors là, par contre, on est revenu complètement au troubadour, parce qu'on en a fait, au fond, le modèle linguistique du renouveau occitan, puisque, au fond, cette langue occitane, on la connaissait à travers des patois. Donc, ces patois, ben, c'est très divers en fonction du lieu où on se trouve.
Oui.
Et l'idée de Père Bosque et donc de Prosper Estieux, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça a été de former une langue normée, quelque part. Et leur modèle, dont ils se sont inspirés, c'était la langue des troubadours. Donc tout ça est revenu après, et c'est vrai que c'est beaucoup intéressé au troubadour aussi. Bon, il voulait composer sur Raymond de Miraval, qui était un des grands troubadours, puis il devait faire une œuvre, puis ça ne s'est pas fait, parce que bon, lui aussi c'était quelqu'un qui avait beaucoup de projets, mais qui parfois ne les réalisait pas. Par contre, il y a eu un enseignement, tout le début du XXe siècle, il y a eu un enseignement important autour des troubadours, qui se perpétue, l'université Jean Jaurès, enfin, etc.
Alors, comme il s'agit d'une création, je n'ai évidemment pas d'extrait à vous proposer, mais pour se faire une idée de ce programme, je vais vous faire écouter l'ensemble Tarentule, qui s'était produit l'an dernier au Festival Deodat Sévrac, auquel appartiennent Marie Cubaine et Xavier de Lignerolles. Ils interprètent ici « Negando il moi signor », un madrigal extrait des « Larmes de Saint-Pierre » de Roland de Lassus.
Yeah.
Negando il Mol Signor, extrait du recueil de Madrigaux Les Larmes de Saint-Pierre de Roland de Lassus, interprété par l'ensemble Tarentule. Mais c'est donc l'ensemble Ut Musica Poesis qui se produit le jeudi 14 novembre à 20h à l'hôtel d'Assesa, la salle Clément Cisor. Concert de clôture du festival Deodat Sebrac 2024 le jeudi 21 novembre. C'est encore à 20h et c'est encore à la salle Clément Cisor à l'hôtel d'Assesa, avec un duo formé par Marie Cuban, qu'on vient d'entendre, accompagné par le pianiste et compositeur américain Edmond Barton Bullock, Jean-Jacques Cuban.
Oui, Edmond Barton Bullock est un compositeur qui est venu dans notre région depuis fort longtemps.
Oui, il y a 25 ans, je crois.
Voilà, oui. Là-bas, il est installé à Palamini.
Au château de Palamini.
Voilà, au château de Palamini. C'est quelqu'un qui est passionné, lui aussi, par justement la culture occitane.
Et oui, un Américain qui est passionné par la culture occitane.
Et donc, il a écrit plusieurs cycles, je crois qu'il y en a 5, là, en l'occurrence, de mélodies qui sont très intéressantes, d'ailleurs. Alors, certains sur des textes originaux de Troubadour, mais peu. C'est plutôt des traductions qui ont été faites
par Ezra Pound.
Par Ezra Pound, qui, lorsqu'il est venu en Occitanie, a découvert, au fond, les troubadours et ensuite les a amenés aux États-Unis. Et il y a beaucoup d'universités qui travaillent sur cette partie de la culture occitane. Et donc, il y a ce cycle avec de textes de troubadours, mais traduits en anglais, ce qui est un peu original d'ailleurs, mais qui est intéressant parce que ça prouve aussi que la culture occitane intéresse au-delà de nos frontières, même parfois intéresse plus au-delà de nos frontières que dans nos frontières. Ensuite, il y a donc également des choses qui sont inspirées par les jeux floraux, donc à travers, au fond, là il y a une filiation évidemment, à partir des troubadours à aujourd'hui, puisque finalement c'est autour de la poésie, les jeux floraux, et que quand même les troubadours c'était avant tout des poètes, bien sûr qu'ils s'accompagnaient, mais enfin la base c'était la poésie et les jeux à l'intérieur, les jeux d'écriture à l'intérieur des poésies. Donc là, on va retrouver un cycle par un mainteneur des jeux floraux, qui maintenant est décédé malheureusement, enfin il y a un petit moment, le nom m'échappe.
Pierre Trénard.
Voilà, Pierre Trénard. Ensuite, il y a également alors, un autre maître des jeux floraux, qui était le prince Henri de Danemark. Voilà, Henri de Montpezat, en l'occurrence. Voilà, qui a écrit donc en français par contre, mais qui a écrit quelques poèmes assez intéressants. Donc c'est cette idée, au fond, de filiation poétique entre troubadours et les poètes de l'Académie des Jeux Floraux, notamment.
Voilà, donc c'est un programme dont le titre est Troubadours d'hier et d'aujourd'hui. Mmh. Donc toutes les musiques ont été composées par Edward Barton Bullock.
Également un cycle alors, de trois chansons sur des textes de Pétrarque.
Voilà, on absolument.
D'ailleurs, la même filiation par le troubadour.
Absolument, j'ai sous les yeux le programme complet. Donc, il y a 5 mélodies en anglais sur des chants de troubadour traduits par Ezra Pound, 6 mélodies d'après le recueil de poèmes du prince Henrik de Danemark, cantabile, 3 canzonieri sur des textes italiens de Pétrarque, 7 mélodies en l'honneur des 7 troubadours et de Clément Cisor, voilà. Poèmes de mainteneur des jeux floraux, dont Pierre Trénard. Et puis, il y a des poèmes en Languedoc de Frédéric Mistral aussi.
Frédéric, c'est l'ode à
Pour l'éloge à Clément Cisor. Vous voyez, Serge Chosy, c'est extrêmement étrange et étonnant, ça. Oui. Et c'est un compositeur américain qui s'y est intéressé. C'est pas quelqu'un de notre cru, si je puis dire. C'est ça, je trouve, le plus étonnant. Alors moi, je les ai entendus cet été, Marie Cuban et Edmond Barton Bullock, au festival qu'il organise dans sa région, là-bas, autour de Martre-Tolosane, le FIMO, son festival FIMO. Il y a vraiment de très, très belles choses. Là non plus, je ne peux pas vous les faire écouter, mais je peux encore vous faire écouter Marie Cuban. On va l'écouter dans une interprétation d'une mélodie de Déodat Sévrac. Tiens, le ciel est par-dessus le toit, vous connaissez tous le fameux poème de Paul Verlaine, elle est accompagnée ici par cette excellente pianiste qui est Nino Pavlenichvili.
Thank you.
Le ciel est par-dessus le toit, mélodie de Déodat de Sévrac, composée sur le célèbre poème de Paul Verlaine, chanté par Marie Cubaine, accompagnée par Nino Pavlenichvili, pour le dernier concert du festival Déodat de Sévrac 2024, jeudi 21 novembre à 20h, à la salle Clément Cizor de l'hôtel d'Assesa. La chanteuse sera accompagnée par le pianiste et compositeur Edmund Barton Bullock dans le programme Troubadour d'hier et d'aujourd'hui. Pour ce concert et pour les deux précédents des 8 et 14 novembre, je vous invite à réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.festival-deoda-2-sevrac.fr. Je rappelle aussi que l'Orchestre de Chambre de Toulouse est en concert les lundis 4 et mardi 5 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. Il y a pour chacun de ces deux jours un concert pédagogique gratuit à 14h30 sur le thème « Une brève histoire de la musique » et les deux soirs de ces mêmes lundis et mardis à 20h30, concert avec un programme d'arrangement pour orchestre à cordes de tubes des groupes ABBA et Queen. La billetterie est en ligne à l'adresse www.orchestredechambredetoulouse.fr. Je rappelle enfin que l'ensemble vocal Nota Bene, dirigé par Delphine Armand, donne la Messa di Gloria de Puccini le mercredi 6 novembre à 21h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Les réservations et achats des places sont à faire en ligne sur le site www.ensemblenotabene.fr. Merci à Serge Chosy de m'avoir assisté dans l'animation de cette émission. Tous mes remerciements aussi à notre invité d'honneur, Jean-Jacques Cubaine. Merci bien sûr à Christophe Aubry, le réalisateur de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci à nos chers auditeurs pour leur fidélité à l'écoute de Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous.